France Musique. France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
Aujourd'hui, deuxième épisode, New York et la musique classique américaine. Quand la musique américaine arrive-t-elle à New York ? Une date est importante, le 15 décembre 1893. Hier, on découvrait comment l'Amérique s'était appropriée la musique européenne. Comment New York avait fait des stars de ses interprètes et chefs d'orchestre, comme Toscanini, Leonard Bernstein, Chacha Heifetz ou Anton Rubinstein. Mais on a vu aussi combien ces orchestres s'étaient plutôt intéressés aux compositeurs de l'ancien monde, Beethoven, Chopin, Liszt, parfois Debussy. La musique américaine ne date pas de la Symphonie du Nouveau Monde, créée le 15 décembre 1893, mais cette œuvre, composée lors du séjour américain d'Anton Dvorak, va, avant George Gershwin, réussir à faire la jointure entre les musiques locales venues des indigènes indiens, des esclaves afro-américains et la musique symphonique européenne. La voici, cette symphonie du Nouveau Monde, le premier mouvement dirigé par Leonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. Écoutez, on se croirait dans une prairie américaine, presque dans un western. Dvorak explique « Je n'ai utilisé aucune des mélodies indiennes. J'ai simplement écrit des thèmes originaux englobant les particularités de cette musique et utilisant ces thèmes comme sujet, je les ai développés avec les moyens des rythmes modernes, contrepoints et couleurs orchestrales. » Thank you. Le Largo de la Symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak, symphonie numéro 9 en mi mineur par l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Dvorak est né en Bohême. Eh bien, c'est lui qui va définir musicalement les deux sagas américaines, la guerre contre les Indiens et le commerce d'esclaves. Il a été embauché pour diriger le Conservatoire de New York. Il arrive en septembre 1892. Il va rester 3 ans et il écrit « Les Américains attendent de grandes choses de ma part. Le plus important, disent-ils, est de leur montrer la terre promise. » Un royaume d'un art nouveau et indépendant. En fait, ils veulent que je crée une musique nationale. J'espère y arriver parce qu'il y a suffisamment de talents, de compositeurs, de musiciens et de matériaux ici. Dvorak habite dans le sud de Manhattan, le cœur de la musique classique à l'époque à New York, 327 East 17e rue, à côté de l'Académie de musique et de Steinway Hall et de tous les lieux de musique classique. Il parle des sons, des couleurs de l'Amérique. Il écrit « C'est un autre état d'esprit, d'autres pensées, d'autres couleurs. Il y a quelque chose d'indien. Il est fasciné par les Amérindiens. » Et puis il rencontre aussi la population afro-américaine à New York. Il entend des mélodies noires. Il utilisera ses motifs de gospel dans la symphonie du Nouveau Monde. Il n'est pas le premier compositeur dit américain à créer une musique purement américaine. Il y a toute une école qu'on appelle de la Nouvelle-Angleterre et qu'on découvrira dans un épisode prochain autour de Boston. Il y a aussi d'ailleurs des compositeurs noirs qui vont écrire de la musique américaine. Par exemple, William Grant Steele. Il est né dans le Mississippi, mais à New York, il étudie auprès de Edgar Varese et il compose une symphonie en 1935 qui sera jouée par l'Orchestre Philharmonique de New York. Ce n'était franchement pas habituel qu'un compositeur noir soit interprété par des musiciens blancs. Le troisième mouvement animato de la symphonie numéro 1 de William Grant Steele, interprété par l'Orchestre symphonique de Détroit, dirigé par Néeme Yervi. Alors, William Grant Steele était un élève d'Edgar Varèse, un autre immigré comme Dvorak, un immigré cette fois-ci français. Edgar Varèse est né à Paris en 1883, il sera naturalisé américain. Il s'est formé à la Schola Cantorum, au Conservatoire de Paris, mais il émigre aux États-Unis en 1915 à l'âge de 32 ans. Il habite à Greenwich Village. Les murs de sa maison sont, paraît-il, remplis de peintures de Fernand Léger, de Miro, de Calder, de Marcel Duchamp qui les lui ont offert. Voilà, il est Il aimait l'art contemporain et il aimait la musique contemporaine. Son grand œuvre musicale s'intitule Amérique. Ce sont des impressions d'Amérique qu'il compose 6 ans après être arrivé. Parce qu'il adore ce pays neuf sur lequel on peut inscrire, je cite, toutes les découvertes, toutes les aventures, c'est lui qui le dit, on peut inscrire l'inconnu. Et il ne se prive pas d'ailleurs pour critiquer les organisations musicales grand public à New York, qu'il décrit comme des mausolées, et les virtuoses célèbres dont il dit qu'il se moque de la musique parce qu'il ne pense qu'à leur carrière, qu'à leur interprétation. Edgar Varèse compose Amérique entre 1918 et 1921. Alors c'est une œuvre pour orchestre gargantuesque, 27 instruments à vent, 29 cuivres, influencé par le Sacre du printemps de Stravinsky, qui suggère la cacophonie sauvage et l'intensité de Manhattan. Edgar Varèse écrit « Quand j'ai composé Amérique, j'étais sous le sortilège de mes premières impressions de New York. Pas seulement ce que j'ai vu, mais ce que j'ai entendu. Cette magnifique rivière symphonique qui m'a touché comme jamais. »
Thank you.
Pierre Boulez dirige l'Orchestre Philharmonique de New York dans cette œuvre Amérique d'Edgar Varèse.
France Musique, Go West, Laurent Vallière.
Un autre compositeur qui a été touché par les percussions, le rythme de la vie new-yorkaise, c'est George Gershwin. On connaît son histoire, le piano qu'il découvre au coin d'une rue, un piano mécanique qui joue tout seul et lui qui veut à tout prix apprendre à en jouer. Ses parents qui achètent un instrument, lui qui va travailler d'abord comme démonstrateur dans un magasin de partitions dans la rue des éditeurs de musique, Tin Pan Alley, qui devient ami avec Fred Astaire et qui commence à composer des chansons qu'il arrive à faire entrer dans des revues de Broadway. Mais à côté de cela, il y a l'œuvre symphonique de George Gershwin et la façon qu'il a, lui qui passe beaucoup de temps dans les clubs de musique noire d'Harlem, d'intégrer ses rythmes à la musique klezmer juive et à la musique symphonique. Il crée le jazz symphonique, il y aura la Rhapsody in Blue, commandée par Paul Whiteman, en 1924 pour une soirée de musique moderne à New York. Et puis il y a le Concerto en Fa, composé en 1925 à la demande du chef d'orchestre Walter Damrosch, qui avait assisté à la création de la Rhapsody in Blue. Damrosch fait cette commande pour son New York Symphony Orchestra, concurrent de l'Orchestre Philharmonique de New York. Le concerto est créé à Carnegie Hall.
Thank you.
André Prévin au piano dans ce troisième mouvement du concerto pour piano en fa majeur de George Gershwin avec André Costellanets et son orchestre. George Gershwin n'avait pas eu la chance d'étudier en France avec Nadia Boulanger et elle lui avait dit, d'ailleurs on ne savait pas très bien ce que ça signifie, « Oh, mais vous n'avez pas besoin de moi ». Bon, Nadia Boulanger va en tout cas faire beaucoup pour la création d'un son et d'une musique américaine. On ne compte pas les compositeurs américains qui viennent étudier chez elle. D'ailleurs, on appelle ses disciples en américain la boulangerie. À commencer par Aaron Copland. Alors lui, il naît à Brooklyn en 1900, à une époque où les compositeurs et les artistes n'avaient pas encore de loft pour vivre et travailler. Eh bien, il composait dans un bureau qu'il louait à l'Empire Hotel, c'était dans le haut de Manhattan, au niveau aujourd'hui de Lincoln Center, précisément chambre 1040. Il y avait une pièce spartiate et un piano droit. Alors lui, Copland, était parti étudier à Fontainebleau avec Nadia Boulanger. En 1930, il compose les variations pour piano, des rythmes anguleux, des bouts de musique tonale dissonante qui vibrent avec l'intensité et l'énergie nerveuse de New York. Une musique qui ressemble à un gratte-ciel fait d'acier et de béton. Le voici, Aaron Copland, au piano, un enregistrement qui gratte un peu, de 1945. Copland au piano en 1947 interprète ses variations pour piano. Alors, On le sait, il va changer un peu son fusil d'épaule. Ensuite, il se dirigera vers une musique plus néoclassique jusqu'à composer de grands morceaux symphoniques qui épousent les grandes plaines américaines comme le ballet Billy the Kid. Mais restons dans les compositeurs novateurs à New York. En voici un autre qui habitait sur Central Park, Charles Ives. En 1898, il emménage avec plusieurs autres jeunes étudiants, tous issus de Yale University, dans ce qu'ils appellent l'appartement pauvre. Lui travaille la journée dans l'assurance, mais compose parallèlement La question sans réponse ou Central Park dans la nuit. On l'appelait dans l'immeuble le perturbateur de paix parce qu'il passait son temps à chantonner fort au piano. Il naît en 1874 à Danbury, c'est dans le Connecticut. Les compositeurs modernistes ont surnommé Charles Ives le prophète du nouveau. Lui, alors, n'a jamais étudié à l'étranger, c'est vraiment un pur produit local américain et il considérait son père, un leader de groupe de musique de Nouvelle-Angleterre, comme son principal professeur. En tout cas, Charles Ives rejetait l'appropriation de musique venue des Indiens ou des esclaves noirs. Lui, il cherche à mélanger la musique du Connecticut de son enfance avec les musiques et traditions européennes. Et il compose des airs magnifiques. Écoutez ce « At the River » interprété par Don Upshaw. Don Upshaw avec l'orchestre de Saint Luke de New York, dirigé par John Adams, un air intitulé At the River. Charles Ives compose aussi des œuvres instrumentales, dont des contemplations. Voici La question sans réponse, composée en 1908. Un arrière-plan lent avec des cordes calmes qui représentent le silence des druides et puis un solo de trompette qui pose la question de l'existence. The Unanswered Question, contemplation pour orchestre signée Charles Ives. C'était John Adams qui dirigeait l'orchestre de Saint-Luke de New York.
France Musique, Go West, Laurent Vallière.
C'est enfin à New York que naissent des mouvements avant-gardistes, minimalistes, par exemple avec le compositeur John Cage. Harmonie numéro 11, extrait des harmonies anarchiques de John Cage, c'était Stéphane Hussong à l'accordéon. John Cage et son partenaire Merce Cunningham emménagent dans un studio de Greenwich Village en 1971. Un journaliste décrit ainsi son espace, spartiate mais plaisant sur le plan esthétique, avec beaucoup de plantes et de verdure. Sensible au son, il se plaignait de sa propriétaire qui tapait à la machine, et une fois, il s'est même plaint à ses voisins du son trop fort qu'il faisait. Mais c'était ses amis en fait, John Lennon et Yoko Ono. John Cage est né en 1916 à Los Angeles. Il étudie à UCLA avec Arnold Schoenberg. Il explique quelle sorte de compositeur il ne veut pas devenir. Dans son manifeste, Le futur de la musique, il se propose de réaliser de la musique à partir du bruit. Le mouvement minimaliste, c'est à la fois vieux et nouveau. Vieux parce que c'est primitif, non occidental. Nouveau parce que c'est technologique et donc occidental. Avec l'utilisation de bandes, d'amplificateurs, John Cage va devenir le gourou de ses compositeurs. Il emménage à New York d'abord en 1942. Il est logé chez Peggy Guggenheim et Max Ernst. Il fait connaissance de Marcel Duchamp. Et un concert au Musée d'art moderne de New York va lui permettre de s'imposer au sein de l'avant-garde new-yorkaise. En 1944, il compose « The Unavailable Memory of ». Alexei Lyubimov au piano préparé dans The Unavailable Memory of de John Cage. Dans le sillage de John Cage se situe Steve Reich. Il naît à New York en 1936, il étudie à la Juilliard School et il rejette la musique atonale. Lui considère que le jazz et le rock font partie de son univers musical. Il écrit de la musique jouée dans les galeries, dans les musées. Et le grand tournant intervient en 1978, un concert à Carnegie Hall où il mélange le cool jazz, les polyrythmies des percussions africaines et un système de répétition de bandes qui permet une lente désynchronisation.
Thank you.
Nagoya Marimbas de Steve Reich par l'ensemble Steve Reich. Son alter ego à Steve Reich, ils ont fait la même école, c'est Philip Glass. Tous les deux ont les mêmes convictions. Il rejette, Philip Glass, la musique atonale, il apprécie la musique répétitive. Lui est né à Baltimore, mais il fait ses études à la Juilliard School. Et pour lui, Philip Glass, le minimalisme, cette forme esthétique née en Amérique, c'est un antidote à la complexité moderniste née en Europe. Le maître mot, c'est la répétition, la pulsation fixe des harmonies simples et des instruments électroniques de musique populaire. Et il va composer aussi de magnifiques musiques de films répétitives et symphoniques, comme celle de The Hours.
Thank you.
magnifique film signé Stephen Daldry, avec Nicole Kidman et Julianne Moore, The Hours, dont Philip Glass compose la musique. Philip Glass qui est révélé au grand public new-yorkais bien avant, en 1976, par la création d'un opéra contemporain au Metropolitan Opera, Einstein on the Beach, avec une mise en scène très contemporaine aussi de Robert Wilson. Eh bien, cette audace, on en parlera demain. Nous parlerons demain de l'opéra à New York et d'une compétition phénoménale entre deux opéras. Il y a eu une saison où il y a eu 300 représentations d'opéra à New York dans cette grande ville. Merci à Clara Nouvelle qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Alice Escriou pour le site internet. Au mixage, Julien Doumain qui est à la réalisation, Catherine Prin-Legal. Vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série Go West, c'est sur l'application Radio France et sur les sites de musique en ligne. Quant à la programmation musicale, elle est disponible sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.